Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Le journal avec Joséphine Jones Mundimana.
Vous êtes bien branchés sur les ondes de la radio Nzamba Agathe Kakawe. Merci pour votre fidélité au rendez-vous du journal. Nous sommes mercredi 29 juin 2022. Voici d'abord les principaux titres de cette édition. Découverte de 11 corps des soldats burundais tombés dans l'embuscade terroriste du 3 mai dernier des Al-Shabaab en Somalie. Les restes de ces hommes ont été retrouvés dans la région de Selbaraf après une opération militaire qui a duré 3 jours selon les sources sur place. C'est un rapport embarrassant pour le gouvernement burundais. L'ONG Transparency International classe le Burundi 5e pays le plus corrompu au monde. L'Observatoire burundais pour la lutte contre la corruption, l'ICOM, indique que seules des réformes profondes en matière de lutte contre la corruption pourraient sortir le pays de cette position. Et le parti SNL, toujours en proie à de violences à caractère politique de la part du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, Aimé Maguera, représentant du SNL en Europe, dénonce le rôle des jeunes du parti au pouvoir dans la destruction de 2 permanences du SNL en province de Luigi. On fait le point dans ce journal. Joséphine Jones-Mundimana, je suis à la présentation. Bienvenue à tous.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
11 corps des soldats burundais qui ont été tués dans l'attaque du 3 mai dernier ont été récupérés en état de décomposition à Selbaraf en Somalie après une opération militaire qui vient de durer 3 jours. L'opération du contingent burundais ATMIS visait à récupérer tous les restes des militaires qui ont péri dans cette attaque. Les 11 corps retrouvés totalisent un effectif de 18 militaires burundais qui ont été tués à cet endroit. Plus de détails avec Valérie Mucho.
Les corps en décomposition de ces militaires burundais du contingent ATMIS ont été découverts en 2 jours successifs. Les 4 premiers ont été découverts ce lundi et les 7 autres corps le lendemain mardi. Les militaires burundais en opération pour retrouver les restes de leurs frères d'armes qui ont péri dans l'attaque du 3 mai sont ceux du 63e et du 66e bataillon ATMIS. Ils sont tous sous le commandement du major Martien Gavonziza qui dirige le 66e bataillon. Les informations que nous détenons au sein du contingent burundais indique que l'opération de recherche continue. En fuyant les combats, les Al-Shabaab ont piégé les corps des militaires burundais avec des engins explosifs. Pour les récupérer, les militaires burundais sont appuyés par l'armée américaine dotée du matériel de détection d'engins explosifs. Avec ces 11 corps en décomposition de militaires burundais découverts, cela fait un total de 18 corps retrouvés parmi ceux qui ont péri dans l'attaque du 3 mai à la position de Selbaraf. Quelques jours après cette attaque, l'armée burundaise avait rendu public un communiqué déclarant que le bilan de cette attaque était seulement de 10 militaires tués, 25 blessés et 5 portés disparus. Des chiffres pourtant démentis par nos sources au sein du contingent burundais sur place qui nous rapportaient un bilan plus lourd avec plus de 30 morts. D'après les informations qui nous sont parvenues dans l'après-midi de ce mercredi, d'autres corps en décomposition, dont le nombre n'est pas encore précis, ont été également retrouvés à Selbaraf durant cette opération de recherche. L'ancien commandant du 61e bataillon ATMIS, le lieutenant-colonel Ndaïla Guidje, alias Kajeke, est parmi ceux qui ont perdu la vie dans cette attaque. Son corps a été retrouvé plus de 2 semaines après les faits. Son commandant en second, le major Minani, a été arrêté par l'auditorat militaire après son atterrissage à Bujumbura. Il serait accusé de trahison lorsqu'il opérait sur le champ de bataille de Selbaraf.
Merci Valérie Mucho. En page politique, une permanence du parti SNL de la colline Kairunda dans la zone Mouadzi a été détruite dans la nuit de mardi par la jeunesse du parti CNDD-FDD. Des membres du parti SNL de cette province trouvent cela comme un acte de provocation et une violence à caractère politique. Ils demandent l'intervention de l'autorité administrative pour arrêter et sanctionner les auteurs de ces violences. Le point avec Eddie Claude et Nina Adoué.
Selon des informations que la radio Inzamba a obtenues des membres du parti CNL de la zone Mouhazi, commune Nyabitinda, en province de Ouigi, cette permanence a été détruite par deux membres du parti CNDD-FDD. Un des militants du CNL de la colline Nyaruganda indique que cette permanence a été détruite après une visite effectuée par des responsables du parti CNL.
Nous sommes beaucoup menacés par le parti CNDD-FDD. Hier, les responsables provinciaux du parti CNL ont effectué une visite pour constater les dégâts après l'incendie qui a ravagé notre permanence. Mais juste après leur visite, des jeunes des Monelakoulé sont revenus sur ce lieu de la permanence incendiée et y sont restés pendant longtemps. Et nous estimons que c'était leur moment de préparer la destruction de notre permanence.
Ces membres du CNL qualifient cette destruction comme des violences à caractère politique. Ils demandent que le chef de zone de Mouazi du nom de Joachim soit poursuivi car c'est lui le promoteur de ces violences.
Nous implorons surtout la justice burundaise pour qu'elle poursuive le chef de zone, car c'est lui qui est à la tête de ces violences, de persécuter des membres du CNL et la destruction des permanences du parti. Nous constatons que le fait de détruire et incendier les permanences construites constitue des violences intolérables, et cela n'engendre que la destruction du pays.
La radio Inzamba a contacté par téléphone le chef de zone Mouazi pour connaître sa version sur ces accusations, mais sans succès. Rappelons que sur la deuxième permanence du parti CNL dans cette zone démolie en moins de 3 jours, c'est après une autre incendiée dans la nuit de dimanche à lundi.
Eddie Claude Ninadre. Le parti CNDD-FDD brille par ses actes de violence et son intolérance politique. Réaction d'Aimé Maguera, le représentant du parti CNL en Europe. C'est après que 2 permanences de ce parti aient été incendiées successivement dans la province de Ouigi à Mouazi dimanche et dans la soirée de lundi en commune Nyabitinda. Aimé Maguera exhorte le gouvernement du CNDD-FDD de cesser sa politique de la chasse aux opposants, surtout ceux du parti CNL. On l'écoute.
Nous condamnons toujours ces actes ignobles, cette politique de la terre brûlée que le CNDD essaie d'imposer au peuple burundais. Ce n'est pas seulement la destruction des permanences du parti CNL, mais donc dans certaines localités, donc ils essaient même d'entraver les travaux du parti CNL. Vous savez, il n'y a pas longtemps, le gouverneur de la province de Bujumbura donc a interdit des activités du parti dans sa province. Donc ce sont des actes ignobles. En fait, on voit que le parti CNDD essaie de s'imposer par la force, essaie d'intimider, essaie d'utiliser la violence, justement pour se faire respecter par le peuple, mais le peuple résiste. Tout le monde sait qu'ils ont truqué les élections, mais ils essaient vraiment, du moins, donc cette politique de répression pour pouvoir un tout petit peu avoir une certaine légitimité, mais avec cette légitimité, mais ils savent très bien qu'ils n'auront jamais cette légitimité. Le peuple burundais a choisi, donc il reste toujours debout. En fait, on conseille, du moins, ce pouvoir, du moins, d'être un tout petit peu humain. Donc, c'est pas cette manière de gouverner qu'ils vont pouvoir effacer, ils vont pouvoir anéantir le parti CNL. Donc, ça fait plusieurs années qu'ils sont là, qu'ils essaient, qu'ils font la même politique de répression, de terreur, mais ils ont toujours échoué. Donc, le peuple burundais va rester uni et debout. Et puis, un jour, ils vont payer de leurs actes.
C'est déplorable et contre la loi que Dr. Christophe Sahabo, l'ancien directeur général de l'hôpital Kira Hospital, soit privé de son droit d'assister aux funérailles de sa mère. Propos de Maître Gustave Niyonzima, après que les autorités pénitentiaires et judiciaires aient rejeté cette demande qu'il a exprimée formellement. Maître Gustave Niyonzima trouve que cette décision illégale est visant à intimider les autres actionnaires de l'hôpital Kira pour ne pas se prononcer contre cette détention jugée arbitraire du docteur Christophe Sahabo. Écoutez Maître Gustave Niyonzima.
C'est un acte de pure mascarade, c'est inhumain et ignominié de refuser au prévenu, donc docteur Sahabo Christophe, de participer aux funérailles de sa chère mère. C'est contraire même à la loi portant révision du régime pénitentiaire au Burundi qui accorde ce droit à un prévenu au premier degré d'un membre de sa famille. Donc ça nous montre que le pouvoir en place au Burundi continue de violer la procédure judiciaire dans le dossier de l'incarcération illégale du docteur Sahabo Christophe. Et c'est aussi une méthode et une façon de pouvoir intimider et tétaniser même les autres actionnaires afin qu'ils ne puissent pas dire aucun mot dans le dossier inhérent à la gestion d'Okira Hospital. Étant donné même que le pouvoir en place veut spolier les actions des autres actionnaires étrangers, donc les Suisses, dans cet hôpital. C'est vraiment horrible. Le pouvoir en place s'enfonce davantage quant à sa mauvaise notoriété et sa mauvaise image au niveau du concert des nations. C'est vraiment horrible, c'est vraiment cruel de refuser ce droit à un prévenu alors que la loi le lui accorde.
Inzamba.
Page économie, le niveau de corruption auquel se trouve le Burundi ne lui permettra pas de s'en sortir facilement. C'est l'avis de Gabriel Lucili, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et d'autres malversations économiques au LUCOM. Il le dit après le rapport de l'ONG Transparency International qui classe le Burundi parmi les 5 premiers pays les plus corrompus au monde sur 180 pays qui ont fait objet d'enquête. Selon le président de l'ONU-COM, aucun pays ne peut nier la crédibilité du rapport étant donné qu'il est établi par des institutions de grande renommée. Écoutez Gabriel Ruffieri.
Le Burundi est toujours classé parmi les 5 pays les plus corrompus au monde. Si on regarde les points, le Burundi a 19 points. Les explications sont simples. C'est parce que dans la plupart des cas, il y a des actions sporadiques. Il y a des discours politiques, mais en termes d'action, nous sommes toujours un peu vraiment plus loin. Et c'est la raison pour laquelle Transparency International, qui classe plusieurs pays, comme exemple, le rapport de cette année a classé 180 pays, dont le Burundi. Donc, pour nous, c'est un rapport crédible, mais aussi, il faut savoir que il y a d'autres institutions crédibles comme la Banque mondiale, le FMI, le PNUD, et bien d'autres institutions classent ces pays sur 3 points, notamment en matière de développement des pays, en matière de la gouvernance et en matière de lutte contre la corruption. Les indicateurs qui sont utilisés sont presque les mêmes sur ces 3 thématiques.
Selon toujours Gabriel Ossiri, seules des réformes profondes en matière de lutte contre la corruption dans toutes les instances du pays peuvent sauver le pays. Il donne l'exemple de l'Office burundais des recettes, OBR, qui a enregistré d'énormes bénéfices après la réforme de 2009. Écoutez encore Gabriel Ossiri.
C'est pour cette raison que l'ORICOM demande toujours qu'il faut vraiment engager des réformes profondes en matière de lutte contre la corruption. Je vous donne un exemple simple. Souvenez-vous, au niveau de la réforme de l'OBR, avant 2009, c'était la douane et les impôts. Souvenez-vous, le Burundi a recruté un consultant international à travers Trade Mac East Africa. Ils ont engagé un certain Hormez Kiran, de nationalité irlandaise. Il est venu au Burundi et il a réformé vraiment très profondément les douanes et les impôts. Il a installé l'OBR, Office Burundais des Recettes. Avant 2009, les recettes en provenance de la douane et des impôts était autour de 400 milliards de francs bruts. Mais actuellement, après à peu près 10 ans, il y a 600 milliards qui ont été augmentés. Où allaient ces 600 milliards qui ont été ajoutés? Mais c'était dans les poches des individus. C'est pour cette raison que, pour nous, il faut vraiment des réformes pour arriver à ce niveau. Donc, si ces réformes qui ont été engagées dans l'OBR peuvent être engagées dans d'autres secteurs publics, nous pensons que la corruption pourrait diminuer. Mais je vous rappelle que Kiran, vers les années 2010, il avait un mandat de 4 ans, il a eu beaucoup de problèmes, il a été obligé même de fuir le pays.
Parlons éducation à présent. Un enseignant de l'école fondamentale Gwingiri, en commune Ugendana, dans la province de Gitega, est accusé d'avoir fraudé un examen de mathématiques qu'il a donné à une fille de la 7e année. L'enseignant, connu sous le nom de Jean-Baptiste Troigayedzu, ne nie pas les faits. Des sources sur place indiquent néanmoins qu'il n'est pas inquiété. Les détails avec Josine Kaze.
Selon les informations recueillies auprès de certains parents des élèves de l'école fondamentale Rugwingiri, le nommé Jean-Baptiste Troigayedzu, qui dispense les cours de français qu'ils ont dit à cette école, est accusé d'avoir fourni frauduleusement un examen de mathématiques pour le compte de sa belle-sœur qui fréquente la 7e année. Le nommé Troigayedzu, qui est le beau-frère du directeur de cette école, Joseph Narindi, ne nie pas les faits. Ce qui étonne plus d'un, le directeur a pardonné cet enseignement moyennant le paiement d'un pot de vin.
Quand les élèves ont fait ce constat amer, ils ont pris leurs condisciples en flagrant délit avec cet examen. L'enseignant Jean-Baptiste a bel et bien reconnu que c'est lui qui a donné l'examen à la jeune fille. Les élèves étaient vraiment très furieux. Il n'y a pas longtemps, des élèves accusés d'avoir fraudé un examen avaient été punis. Il ne devrait donc pas s'y avoir deux poids deux mesures. Ce qui est choquant, comme c'est le beau-frère du directeur de l'école, il n'a pas été puni. Il s'est précipité à dire qu'il le pardonne. C'est vraiment très dommage pour un responsable qui, par contre, devrait prendre le devant pour protéger les intérêts de l'école et les torpilles.
Il n'y a pas longtemps, le directeur de cet établissement avait puni les élèves de la 8e année qui avaient été appréhendés avec un examen qu'ils venaient de passer, écrit sur les bancs, pupitres sur lesquels ils avaient travaillé. Les parents demandent à ce que ce directeur soit limogé et que l'enseignant Troigayedzu et cet élève soient punis conformément au règlement scolaire. La rédaction de la radio Inzamba a appelé par téléphone le directeur de cet établissement, tout comme le directeur communal de l'enseignement à Ugendana pour plus de précisions, mais ils n'ont pas décroché leur téléphone.
Merci Josine Kaze et un mot aux réfugiés burundais avant de clore ce journal. Il suffirait d'un simple souffle de vent pour l'emporter. C'est en tout cas l'air que donne l'extrême fragile abri d'une veuve réfugiée au camp d'Ndouta en Tanzanie. Ce cas reflète une situation des réfugiés burundais vivant dans ce pays qui devient de jour en jour intenable. Des décisions toujours plus difficiles les unes que les autres sont prises au quotidien. Le gouvernement tanzanien fait fi des différentes voix qui s'élèvent à travers le monde pour dénoncer cette situation. Les détails avec Alexandre Niyungeko.
L'enfer prend sa forme la plus cruelle pour les réfugiés burundais vivant en Tanzanie. Depuis quelques années, ils sont littéralement laissés à eux-mêmes sans le droit d'avoir quelque possession que ce soit. Pire, l'on semble s'acheminer vers le refus de disposer d'un toit. Et de fait, ces réfugiés se sont vus refuser même le droit de réfectionner leurs habitations quand elles sont endommagées, et encore moins construire en dur. Conséquence, certaines se retrouvent dans des conditions humainement indescriptibles. C'est le cas d'une veuve du camp d'Ndouta en Tanzanie, avec son fils de 12 ans. Elle vit dans un abri d'à peine 2 mètres carrés, fait de morceaux de sculpture des bâches. De loin, l'abri en question donne plus l'idée d'une termitière que d'une habitation, isolée et totalement abandonnée dans ce qui ressemble à un bois à peine défriché. Des conditions que les réfugiés décrivent comme celles d'une époque très lointaine de la civilisation.
Comment est-ce qu'on peut chanter les droits de réfugiés alors que quelqu'un vit dans une hutte au 21e siècle, alors qu'il est sous la responsabilité de la faire? Moi, je les comprends. Ils veulent nous pousser à rentrer au pays, ils veulent nous pousser à se faire inscrire, mais nous n'avons pas où aller. Avoir la pression qu'ils nous font, on ne peut pas vraiment rester ici. Nous n'avons pas où aller. Il faut que l'OFR plaide auprès des autorités tanzaniennes afin qu'on construise des maisons plus ou moins durables pour cette catégorie de réfugiés qui n'ont pas de maison en briques et accepter que ceux qui ont dit de maison en briques et que leur maison s'use puissent fabriquer des briques pour renouveler la maison. Quand même nous sommes des réfugiés, nous sommes des humains. Nous pouvons vivre une vie relativement digne.
Malheureusement, la vie infernale de cette veuve et son fils est loin de s'arrêter. Personne n'a le droit d'intervenir pour les sortir de cette situation. Et le gouvernement tanzanien vient d'accorder juste un an à tous les réfugiés burundais de retourner dans leur pays natal. En fin de semaine dernière, le Haut Commissariat pour les réfugiés a dénoncé la persécution que les autorités tanzaniennes font subir à ces réfugiés. Mais celles-ci n'en font qu'à leur tête. La rédaction de la radio Izamba a contacté par téléphone le président du camp de réfugiés de Nouta ainsi que son adjoint pour plus de précisions sur la situation de cette veuve, mais personne n'a décroché son téléphone.
Alexandre Niyungik, merci pour votre reportage qui nous amène à la fin de cette édition. Je dis également merci à vous tous qui nous avez suivis. Josephine Johnson-Dimana, j'étais avec vous à la présentation de ce journal. J'aurai le même plaisir de vous retrouver dans nos prochaines éditions d'ici là. Portez-vous bien. Au revoir.